Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne-Françoise Dumont.
Anne-Françoise Dumont et Jean Pruvot, professeurs à l'université de Cergy-Pontoise, se retrouvent aujourd'hui dans le studio de Canal Académie pour la première émission de la série « Le dictionnaire, hier et toujours ».
Bonjour Jean Pruvot.
Quel bonheur de vous retrouver.
Non, nous ne sommes pas à l'hôtel de Rambouillet, chez Madame de Vivonne, Catherine de Vivonne.
Non, nous ne sommes pas davantage chez Valentin Conrard. Nous sommes dans le studio de Canal Académie à l'Institut Quai de Conti, où nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première émission d'une série de 6 que nous avons intitulée « Le dictionnaire, hier et toujours ». Nous l'avions annoncé il y a quelques semaines lorsque nous avions présenté votre dernier livre, « Les dictionnaires français, outils d'une langue et d'une culture » paru l'an dernier chez Ofris. Cher Jean Pruvot, je ne vous présente plus. Nos auditeurs vous connaissent bien. Ils savent que vous enseignez la lexicologie et la lexicographie à l'université de Cergy-Pontoise. Ils savent aussi que les dictionnaires sont votre spécialité, mais aussi votre passion. Passion que vous m'avez d'ailleurs inoculée. Ah,
j'en suis ravi.
Le dictionnaire, hier et toujours. Notre propos est de présenter les dictionnaires de l'Académie française dans leur environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de la première édition du dictionnaire de l'Académie française. Pourquoi insister sur cette première édition? Que représente-t-elle aux yeux des historiens de la langue et des linguistes? Quelle est sa spécificité? Parce qu'enfin, il y avait Richelet, 1680, il y avait Furetière, 1690. Alors?
Il y a bien Richelet, il y a bien Furetière, mais il y a surtout 1635, la création de l'Académie française. Et d'une certaine manière, elle est la première en France à avoir cette volonté d'élaborer un dictionnaire bien avant Richelet, bien avant Furetière. Et peut-être le fait même qu'elle soit la troisième dans ses élaborations, puisqu'il y a d'abord Richelet 1680, vous l'avez dit, puis Furetière 1690, et la Canémerie arrive en 1694, ça n'a peut-être pas été un mal non plus, peut-être pas pour la réception, mais sans doute ça a été très pertinent aussi dans un certain nombre de synthèses qu'elle a pu effectuer tout au long de ces décennies. Alors, si on évoque Richelet,
oui.
En 1680, c'est effectivement le premier dictionnaire authentiquement monolingue, c'est-à-dire français-français.
Deux volumes, 25 000 mots.
Voilà, deux volumes, 25 000 mots, avec des exemples choisis dans la littérature, et entre autres Boileau, Malherbe, Molière, Pascal, Vaugelas aussi, et même l'avocat Patin, qui faisait partie des auteurs, enfin, qui avaient aidé Richelet et qui
comme avocat,
ne détestaient pas, voilà, et ouais. Qui ne détestaient pas se citer. Et alors, la formule lexicographique de Richelet, d'une certaine manière, est un petit peu celle du dictionnaire de langue fondé sur citation qu'on va retrouver chez Littré et qu'on retrouvera plus tard dans le Grand Robert ou le Petit Robert. Alors, quand en 1690 intervient Furetière, on aura l'occasion d'en parler puisqu'il était académicien.
Oui.
De même que pour le dictionnaire de Richelet, Patru, qui était académicien, faisait partie de son équipe. Bien, quant au dictionnaire de Furetière en 1690, dictionnaire universel, donc le titre est bienvenu, avec une infinité de choses, disait-il, pour, dans le fond, expliquer les mots. Les définitions y sont accompagnées aussi de quelques citations, mais ce sont surtout, et c'est Pierre Bell qui s'exprime dans la préface, les curiosités de l'histoire naturelle, de la physique expérimentale et de la pratique des arts, entendons des métiers, qui l'emportent. En tant qu'information, il y a 40 000 mots, on y inclut donc les termes de métiers, et en vérité, ce dictionnaire universel ouvre la voie aux futurs dictionnaires dits encyclopédiques, que seront notamment le Petit Larousse, le Grand Larousse, le dictionnaire qui est.
C'est-à-dire, oui. Et c'est parce qu'il s'occupait des termes techniques dont ne s'occupait pas l'Académie,
voilà,
qu'il avait obtenu l'autorisation de publier.
C'est ça. Alors, il y a une affaire Furetière, puisque Furetière avait obtenu effectivement cette autorisation. parce qu'on imaginait que ce n'était qu'un complément du dictionnaire de l'Académie avec des termes techniques. Complément que fera en fait vraiment Thomas Corneille.
Thomas Corneille,
hein, nous avons déjà
bien sûr, 94.
Et il se trouve que c'est l'imprimeur de l'Académie qui était aussi l'imprimeur de Furetière et qui va prévenir l'Académie qu'il n'y a pas seulement les mots techniques.
Qui leur a mis la puce à l'oreille.
Voilà, qu'il y a aussi les mots courants de la langue et que, en somme, c'était aussi un concurrent qui incluait les mots que présentait l'Académie, qui présentait surtout les mots de la langue courante. Alors c'est peut-être le moment d'ailleurs d'évoquer le projet précis de l'Académie et en quoi il était très original dans ce triptyque, hein, ce que j'appelle un peu la trinité lexicographique, Richelet 1680, Furetière 1690, l'Académie 1694. Alors, ce qui fait sans doute l'originalité, sans aucun doute, l'originalité de l'Académie, c'est d'abord qu'elle présente un ouvrage qui ne donne pas tous les mots de la langue, mais les mots qui doivent être en quelque sorte fixés, puisque c'était le projet de l'Académie, qui doivent être en quelque sorte aussi donnés avec la norme la meilleure qui soit. Donc on comprend que Vaugelas ait participé dès le début à ce dictionnaire, puisqu'il était le premier auteur en fait du dictionnaire de l'Académie française. Et alors, avec quelque chose qui a été critiqué à l'époque, mais qui était extrêmement moderne, qui était un ordre particulier des mots.
Oui, qui est original,
voilà.
Et qui sera abandonné ensuite.
Qui sera abandonné aussi. Alors cet ordre, c'était par exemple, sous le mot barque, de donner les dérivés embarquer, embarquement, débarquer, désembarquement. Sous le mot amitié, donner le mot ennemi, inimitié.
Et tout cela, par famille de mots.
Voilà, et tout cela rend le dictionnaire, j'allais dire, intelligent, sémantiquement intelligent. On voit les rapports morphologiques, on dirait aujourd'hui de manière un peu savante, ce que n'offraient pas les autres dictionnaires. Et évidemment, dans l'ordre alphabétique, on avait bien le mot inimitié dans la lettre I, ou bien le mot désembarquement à D, et on renvoyait l'Académie marquée en termes très clairs. Voyez, voilà, désembarquement, voyez, barque. Et ça donnait aussi un goût de la lecture. Alors, ce qui est très curieux, c'est que l'Académie qu'on a toujours considérée comme conservatrice dans la langue, ce qui est évidemment faux, elle enregistre l'usage et suprêmement l'usage, mais elle était structuraliste à la limite avant la lettre.
Moderne.
C'est-à-dire que, voilà.
Chomskiste.
Presque.
Hein, avant la lettre.
On va effectivement y revenir. Hein,
moderne, en ce sens.
Voilà. Si vous voulez, même on peut déraper là-dessus. Si Chomsky s'est intéressé notamment à Port-Royal et à la grammaire de Port-Royal, c'est justement en fonction d'un certain nombre de points de vue qu'avait aussi l'Académie française, donc peut-être pas dès 1635, mais qu'elle a acquis au cours des 30 années qui ont suivi. Alors, peut-être dire un mot à ce moment-là de nos amis
de
Port-Royal, et dire tout de suite qu'on avait en réalité aux alentours de 1660, la grammaire générale et raisonnée qui était élaborée à Port-Royal par Antoine Arnaud et Claude Lancelot. En fait, on sait qu'il s'agissait de jansénistes rassemblés donc à Port-Royal et qui, depuis d'ailleurs 1637, accueillaient les religieux et laïcs qui étaient désireux de vivre hors du monde selon l'idéal janséniste. Et alors, parmi les solitaires de Port-Royal, il y avait donc Arnaud, Nicole et Lancelot qui s'illustraient par leurs réflexions philosophiques, linguistiques, et ils ont, dès 1662, publié ce qu'on a appelé la logique de Port-Royal, qui s'appelait plutôt la logique ou l'art de penser. Et là, ce qui est très important, c'est qu'ils tentent de démontrer que les idées se forment par abstraction. Et dans cette démarche, justement, qui était générale, et que relancera aussi Chomsky, qui cherchait quelque chose d'universel. Et la position, évidemment, des logiciens de Port-Royal était identique. Eh bien, dans cette démarche, la définition avait une très grande importance, puisqu'il considérait avec Pascal que c'était un remède à la confusion qui naît souvent dans le discours, et une confusion due à des mots qui étaient mal analysés. Donc, il fallait vraiment trouver...
Définir, c'est affiner la pensée.
Voilà, c'était cela, et trouver l'idée générale suivie des idées spécifiques ensuite, qu'on appelait parfois accessoires à l'époque.
Alors, donc, une nomenclature qui n'inclut pas les termes techniques.
Voilà.
Description d'une langue de l'époque.
Alors, description d'une langue en synchronie. Ça aussi, c'est quelque chose de très clair chez l'Académie française. On ne donne pas l'histoire du mot, pourtant on aurait pu, mais on décrit la langue du XVIIe, celle qui est parlée par le roi, la meilleure partie de la cour et l'usage suprême, comme je le disais tout à l'heure. Et on décrit donc la langue, comme disent les linguistes aujourd'hui, en synchronie, en n'allant pas trop loin non plus dans le néologisme. Hein, il s'agissait aussi de fixer la langue et de prendre d'être très prudent à cet égard. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que du même coup, si je reviens aux jansénistes tout à l'heure, j'oubliais d'évoquer la grammaire aussi de Port-Royal, c'est que on essaie de décrire la langue en donnant l'idée générale des mots en synchronie et en y ajoutant des exemples de l'époque, en synchronie aussi. Et du même coup, on offre une grammaire. Et là aussi, les philosophes plus tard sont très sensibles à l'Académie française, parce qu'on offre une grammaire à l'intérieur du dictionnaire de l'Académie.
C'est ça. Une norme à fixer le bon usage à travers ces exemples.
Alors, peut-être ce qui est aussi intéressant, c'est de montrer combien la première préface du dictionnaire de l'Académie française est linguistiquement très forte.
Hein, je me suis régalé à la lire.
Voilà. Souvent, on critique l'Académie, on ferait bien de lire les préfaces. Et notamment la première, puisque, évidemment, elle est fondatrice. Et là, on s'aperçoit que ce sont des linguistes, qu'ils ont réfléchi à chaque chose. Et je prends, par exemple, quelque chose qu'ils évoquent à propos des arts et des sciences, comprenons des métiers hein, et des sciences. Et ils disent que il est bien plus, et je les cite, il est bien plus aisé, par exemple, de définir le mot télescope, qui est une lunette à voir de loin, que de définir le mot devoir. Et l'on éprouve même en définissant ces termes des arts et des sciences que la définition est toujours plus claire que la chose définie, au lieu qu'en définissant les termes communs, la chose définie est toujours plus claire que la définition. Très difficile de définir le mot voir, le mot âme, le mot des mots simples. Et c'est ce qu'ont fait les académiciens magnifiquement.
Bien, je crois que nous venons de voir assez en détail quelles étaient les caractéristiques de cette première édition du dictionnaire de l'Académie française. Canal Académie reçoit aujourd'hui Jean Pruvot, professeur à l'université de Cergy-Pontoise, pour la première émission de la série Le dictionnaire, hier et toujours. Nous nous interrompons et nous retrouvons dans quelques instants pour la suite de cette émission. Canal Académie reçoit aujourd'hui Jean Pruvot, professeur à l'université de Cergy-Pontoise, pour la première émission de la série « Le dictionnaire, hier et toujours ». En amont, Jean Pruvot, quels sont en termes institutionnels d'abord, en termes linguistiques ensuite, les dictionnaires qu'il faut mentionner ?
Alors, il faudrait mentionner évidemment l'un des tout premiers qui est la fameuse... Academia de Crusca, qui est l'académie italienne qui a créé en quelque sorte le concept de dictionnaire monolingue, c'est-à-dire italien en l'occurrence,
Florence.
Puisqu'on est en Italie. Alors, c'est merveilleux, c'est effectivement Florence.
La Toscane.
On se situe là dans la seconde moitié du XVIe siècle et dès 1591 était né le projet d'éditer un dictionnaire de la langue italienne. Alors, le mot Crusca, signifie...
C'est le son.
Voilà, le son.
Le
alors,
son.
Par rapport
quel
au blé.
Son
voilà. C'est, il importe de séparer le son de la farine, c'était l'idée, d'où le blason de cette académie, hein, qui était une sorte de butoir, assorti d'une légende éloquente. En italien, il pio bel fior ne coglie. Mm-hmm. Elle en recueille la plus fine fleur. Alors, la première édition du Vocabolario de la Crusca, le dictionnaire de la Crusca, est parue en 1612. À Venise, il s'agissait effectivement avant même l'Académie française, de rassembler eh bien un certain nombre de travaux prestigieux et d'œuvres prestigieuses des écrivains italiens, et notamment de Dante, de Pétrarque et de Boccace.
C'est ça.
Et du coup, on le comprend, c'est pas tout à fait le projet de l'Académie, mais ça avait été son tout premier projet.
Oui.
Au tout début, l'Académie voulait donner
des citations. Ils se sont vus contraints d'abandonner.
Voilà, et c'était une bonne chose, oui. D'une certaine manière. Mais là, on cite ces écrivains. La langue florentine est évidemment bien installée à ce moment-là. Et en citant des écrivains, eh bien, on a fondé effectivement la langue italienne, enfin une grande partie de la langue italienne. Et là, c'était aussi politiquement quelque chose de très important parce que qu'un pays ait un dictionnaire dans la langue parlée par le roi, alors là je pense plutôt évidemment à la France, c'était à la fois prestigieux mais fondateur politiquement
aussi.
Bien entendu. Et donc l'Académie de la Crusca était un modèle pour, bien entendu, Richelieu.
Mais l'évolution de leur langue était bien différente de la nôtre. La nôtre a évolué beaucoup plus rapidement. La leur était plus établie plus tôt,
voilà,
dans le temps.
Voilà, ils avaient la Renaissance. On sait
donc
bien,
ils pouvaient citer à 2 ou 3 siècles de différence que nous ne pouvions pas faire.
Nous ne pouvions pas le faire. D'autant plus que les écrivains du XVIe siècle étaient mal perçus au XVIIe, la langue avait beaucoup changé. Aujourd'hui, évidemment, on les a réhabilités, notamment grâce au romantique. Hein. La néologie, qui était très forte au XVIe siècle, n'était pas de mise au XVIIe siècle, où on tentait de réguler la langue. Alors au moment où on la régule, il faut normaliser et éviter les néologismes, bien entendu.
Les points de vue et l'histoire étaient différents.
Et alors, la littérature du Moyen-Âge, en fait, qui datait du XIIIe, XIIe, XIIIe, était très mal perçue. On la considérait comme gothique, qui était péjoratif et incompréhensible. Ce n'est que plus tard.
Même Rabelais.
Voilà. Ce ne sont en fait que les romantiques qui ont réhabilité la langue du Moyen-Âge, les écrivains du Moyen-Âge, et ceux du XVIe. Ceux du XVIe détestaient ceux du Moyen-Âge, les considéraient comme gothiques, comme véritablement... très loin de ce qu'on pouvait attendre de la littérature, et le XVIIe s'opposait aussi à ce qu'il considérait comme désordonné au XVIe siècle.
Autrement dit, c'est la rançon d'une unité faite beaucoup plus tôt chez nous.
Voilà. Mais on y a peut-être gagné parce qu'on a eu de grands théoriciens. Et on avait notamment Malherbe-Vin, début du XVIIe.
Bien sûr.
Et on avait aussi Vaugelas, qui faisait partie de l'Académie française.
Donc on comprend mieux pourquoi l'édition de 1694 de l'Académie fut synchronique.
Oui, tout à fait.
Alors, dictionnaire de la Crusca.
Oui. Alors, évidemment, il y a d'autres dictionnaires qu'il est important
de citer.
Et c'est notamment le dictionnaire des épithètes. Alors que ça s'appelle effectivement épithètes. C'est fait par Laporte. Alors, Maurice de Laporte, qui, en 1571, propose un dictionnaire d'épithètes. Et alors, de quoi s'agit-il? Ben, il s'agit sur un certain nombre de mots choisis, des substantifs, évidemment, puisque les épithètes vont s'installer à côté des substantifs, ben, de proposer toute une série de substantifs possibles. Alors, j'en donne un exemple. J'ai ici chemise. Que peut-on dire d'une chemise? Elle peut être, et alors je lis ce dictionnaire donc du 16e, fin 16e, elle peut être courte, blanche, fraisée, dentelée. J'ai même du mal à lire, hein, biseauté, froncé, crêpé, goudronné, et puis il peut y avoir aussi la passementerie, et puis la chemisette peut être enfantine, laineuse, cotonnée. Donc on a là toutes sortes.
Goudronné.
Voilà, oui, goudronné, sans doute en pesée, hein, je vais pas encore chercher. Je regardais le mot pas. Pas, on a pas lent, compté, grave, stable, mesuré, ferme, tardif, avancé, faux, un faux pas, mais aussi bronchant, morne, compassé, long, douteux, tracé, franc, assuré, solide, formé, larron. Alors on a larron. Comme ça, voilà, on a le pas larron, c'est délicieux.
Oui.
Alors, mine de rien, et là c'est une réflexion récente, hein, je dois l'avouer, et qui n'a pas été vraiment travaillée, il faudrait maintenant le dire plus haut et plus fort, on a souvent fait le lien direct entre le trésor de Nicot en 1606, qui était la reprise du travail de Robert Etienne, et que Bernard Quémada appelait à juste titre un faux bilingue, c'est-à-dire qu'on y donnait le mot en français, suivi de sa traduction en latin, suivi de commentaires éventuels en français. Et on a un peu oublié ces dictionnaires que vous me poussez vraiment, et je vous en remercie, à mettre en avant, que sont ces dictionnaires spécialisés, avant la lettre d'ailleurs, comme ce dictionnaire d'épithètes. Parce que justement, l'Académie française, ce qui faisait sa grande originalité dès 1694 et qu'elle va conserver, c'est d'être vraiment un dictionnaire de la langue. Et donc, de ne pas hésiter à nous donner des exemples, à nous ajouter dans les exemples des synonymes, des épithètes. Et là, on le sent bien, cette académie, je suis allé rechercher un peu plus loin dans l'académie, quand vous trouvez, par exemple, le mot « crainte », défini par l'académie, « passion excitée dans l'âme à l'idée d'un mal à venir », appréhension, peur. Et là, vous avez grande crainte, juste crainte, crainte respectueuse, bonne crainte.
Les épithètes sont introduites.
Et là, pour décrire la langue française, rien n'est meilleur que l'Académie française. Furtière était du côté des référents. L'Académie française était du côté de la description de la langue. Et Richelet était léger, bien plus léger en information. Il était le premier et la langue française est peu décrite. Il y avait quelques citations.
Premier, c'est donc là son mérite. Alors, les dictionnaires de synonymes.
Alors, dictionnaire de synonymes, là, il faut citer quelqu'un d'autre, c'est Gérard de Vivre, dont l'ouvrage, qui s'intitulait d'ailleurs Synonymes, c'est en 1569, Synonymes, c'est-à-dire plusieurs propos propres, tout en écrivant qu'en parlant, tirés quasi tous à un même sens, pour montrer la richesse de la langue française. Vous voyez, c'est un titre compliqué. Et comme bon nombre d'ouvrages précieux, non pas au sens de la préciosité, mais précieux pour nous de l'époque, ils sont tournés vers les étrangers. On reviendra aussi là-dessus pour l'Académie française. Oui. Ils sont tournés vers les étrangers, c'est-à-dire que là, il s'agit de proposer...
Une attitude didactique, pédagogique.
Voilà. Il s'agit de proposer aux étrangers un ouvrage en langue française, mais traduit en allemand. Il s'agit donc de montrer la langue française auprès des Allemands. Et j'en lis quelques exemples. Lettre C, il se cachait derrière moi. Et puis il y a derrière la formule en allemand, Er, Verbar, Sur, Binder, Mich. J'espère que je prononce bien, j'ai fait de l'allemand il y a bien longtemps. Je ne vous puis honnêtement sceller, cacher. C'est traduit en allemand de nouveau. Je ne te dissimulerai rien, traduit en allemand. Mais voyez, caché, scellé, dissimulé. Vous vous mussez par devant moi. Mussez, vieux mot.
Oui.
Ce sont gens qui ne dissimulent rien. Il n'y a rien si couvert qu'il ne sera vu. Ils ne feraient rien en cachette ni en secret. Chose faite par emblée. Pourquoi l'avez-vous recelé devant moi? Puis, cachement. Tout simplement, C-A-C-H-E-M-E-N-T, mot qui a disparu. Le tout se fait par dissimulation. Vous voyez, ce sont des synonymes avec des exemples. Donc ça, c'est aussi très précieux.
De façon à en donner l'éventail.
Voilà, c'est ça l'intérêt de la chose. Alors, on a évidemment encore d'autres ouvrages qui sont...
Alors, synonymes et épithètes. Montméran,
là, on est en 1645. Et on bénéficie, cette fois par Antoine de Montméran, d'un ouvrage qu'il appelle « Épithètes et synonymes » et qu'il prétend être le premier dictionnaire de synonymes. On voit que c'est faux parce que Gérard de Vivre vient de le faire. Enfin bon, déjà, sans doute, la concurrence, la concurrence entre les auteurs est présente. Et ce qui est intéressant dans le travail de Montméran, c'est qu'il propose là aussi un mélange entre épithètes et synonymes. C'est-à-dire que on a à la fois les épithètes, mais on a aussi des synonymes. Et on aura, par exemple, civilité, honnêteté, courtoisie, entre gens, bienséance, compliment, suivi de affable, gracieux, honnête, bienséance, courtoise, gentil, poli, civilité, voyez, faveur. Donc, il y a un mélange des deux. Et alors, ce qui nous manque, on en est persuadé, mais ce qui nous manque, on en a parlé avec bien des linguistes passionnés d'histoire de la langue, c'est de savoir quelles étaient les lectures des académiciens. Mais on sait que les académiciens lisaient beaucoup, étaient très au courant, et qu'on ne fait pas un dictionnaire sans ouvrir, bien entendu, les ouvrages des autres.
On peut supposer qu'ils lisaient beaucoup. Oui.
Et quand je disais tout à l'heure qu'arrivés en 1694, on dit toujours ils sont arrivés en bon dernier. Oui, mais à la limite, les derniers sont parfois les premiers, parce que les critiques qu'avait faites Furtière sur le dictionnaire d'académie. Certaines ont été intégrées au
bien
dernier
sûr.
Moment. Hein,
oui, oui,
et donc,
fait.
On en a bénéficié. Et il est très probable, on en est presque sûr, que les académiciens bénéficiaient des ouvrages que je viens de citer, de Gérard de Vive, de Montméran.
Alors, dictionnaire de la Crusca. Trésor de Nico, épithète de Monsieur de la Porte, synonyme de Gérard de Vivre, synonymes et épithètes de Montméran. Ces œuvres préfigurent le véritable grand dictionnaire que représente le dictionnaire de l'Académie française de 1694, et vous nous l'avez déjà dit en grande partie. En quoi ce dictionnaire de l'Académie est-il un grand dictionnaire?
Alors, c'est un grand dictionnaire parce que il offre pour la première fois des définitions très précises que reprendront tous les autres dictionnaires, parce que il n'y a pas de dictionnaire qui était plus plagié que le dictionnaire de l'Académie. Il offre une grammaire par des exemples qui sont vraiment bien installés et qui évidemment vont
évoluer. Une grammaire implicite. Hein,
une grammaire implicite. Et alors, c'est là où c'est très intéressant, il offre pour les étrangers un véritable modèle.
Hein. Alors, nous allons en parler abondamment, parce qu'enfin, un grand dictionnaire, soit. Et pourtant, il ne fut pas très bien accueilli. Messieurs, voici un ouvrage attendu depuis longtemps. Puisque tant d'habiles gens y ont travaillé, je ne doute point qu'il soit très beau et fort utile pour la langue. Je le reçois agréablement, je le lirai à mes heures de loisir, et je tâcherai d'en profiter. Je cite ici le roi Louis XIV, auquel une délégation présidée par Monsieur de Toureille présenta le dictionnaire en son cabinet le 24 août 1694 au sortir de son prie-dieu. Pourquoi cette tiédeur du roi? Le dictionnaire de l'Académie ne correspondait-il pas à son attente, à celle du public? Était-il trop atypique? Et à l'étranger, ne fut-il pas mieux accueilli?
Alors, vous avez vraiment déjà parfaitement analysé et je vais vraiment faire écho à tout cela en donnant quelques exemples. Vous savez, il y a eu un colloque organisé ici par Bernard Quémada, et j'y étais avec mes étudiantes à l'époque, en jeune enseignant, et qui avait pour thème donc les dictionnaires de l'Académie française et la lexicographie institutionnelle, et c'était donc en 94. Et Franz Josef Haussmann, qui est un grand professeur allemand, qui connaît très bien l'histoire des dictionnaires français, avait commencé sa communication sur la réception de la première édition, qu'il avait appelée « Grandeur et misère » d'ailleurs, en disant « Nul n'est prophète
en son pays ».
Et je crois que c'est effectivement ce qui s'est passé pour l'Académie. Alors, il y a quand même un certain nombre de raisons pour ça. Et si, en tant que linguiste aujourd'hui, en tant que témoin de la langue, je dis linguiste au pluriel, hein, et en tant que témoin de la langue, on est ravis, et tous les linguistes qui se penchent sur le dictionnaire de l'Académie française perçoivent en quoi c'est un très grand dictionnaire. C'est même sans doute le seul premier dictionnaire français. On lui doit énormément, on va y revenir. Mais si tous les linguistes perçoivent ça, à l'époque, honnêtement, quand on proposait les mots de la langue courante, 18 000, quand Furtière en proposait 40 000,
voilà.
Bon, bien entendu que c'était fondamental de bien définir le mot « voir » pour nous linguistes et pour la langue, et pour les grammairiens. Bien entendu que c'était important de définir des mots comme lumière, des mots comme le verbe avoir, et toutes sortes d'autres mots de ce type. Mais en réalité, les consommateurs de l'époque les connaissaient, ces mots. Ils parlaient une belle langue, parce que qui lisait aussi, bien
oui.
entendu, c'était...
les lecteurs, c'était l'élite, et l'élite connaissait déjà
donc,
cette langue.
Voilà, donc l'élite retrouvait ce qu'elle savait, ce qu'elle connaissait dans le dictionnaire de l'Académie. Alors du même coup, elle était un peu déçue. Et comme Furtière était arrivé en 1690, eh bien l'élite n'a pas vu en quoi c'était un dictionnaire extraordinaire dans la manière dont les définitions étaient élaborées et dont les exemples étaient proposés. Alors ça, c'était le premier point.
Donc, désappointement.
Désappointement. Et du coup, même le roi était très content d'avoir 20 000 mots de plus avec,
chez
Furtière.
Qu'il avait sur sa table de chevet depuis déjà 4 ans.
Et alors, n'oublions pas qu'aujourd'hui, on est très habitué à penser qu'il y a des dictionnaires de langue, avec notamment donc l'Académie et le Petit Robert ou le Grand Robert, et de l'autre côté, des dictionnaires avec des images, le Petit Larousse, dictionnaire encyclopédique. Cette distinction au XVIIe siècle, elle n'est pas très claire. Les académiciens la font, les linguistes entre guillemets de l'époque la font, mais le grand public pas du tout. Tandis que nous, on sait très bien à un certain niveau qu'on achète ou le petit Robert ou le petit Larousse, c'est qu'on n'aura pas la même information sur des mots comme champignon ou d'autres mots. Alors, la deuxième raison aussi, c'est que bah, les Français sont toujours d'ailleurs de même nature. Hein. On aime les choses faites très vite et on oui. aime aussi... comment dire, tout ce qui est ironie. Hein, oui. Avant Voltaire, on était
on
déjà...
On s'est moqué de la voilà. lenteur avec voilà. laquelle ce dictionnaire...
Voilà, donc on avait... On était déjà prévenus contre l'Académie française qu'on considérait comme...
Parce qu'enfin, 60 ans sont passés.
60 ans sont passés.
Entre 1634 et 1694.
Mais en même temps, il faut bien avouer que les travaux n'ont vraiment commencé que dans les années 1650-60, Vogelin a mis a donné le canevas et la langue avait changé. Mmh. Dans le fond, ils ont mis moins de temps qu'on ne le croit. Et ils ont voulu peaufiner. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier dictionnaire paru en 1692 avec 500 exemplaires qui ont
été finalement envoyés au pilon.
Pilonnés pour donner un ouvrage sérieux, sans coquille, etc. Et puis alors, ils inauguraient quelque chose qu'on oublie complètement aussi. Quels sont les premiers à nous donner, pour la France, une expérience d'un dictionnaire fait en équipe, et ça je l'ai écrit nulle part, vous, voyez, vous me faites dire des choses que j'aimerais noter après, mais quels sont les premiers à faire
d'ailleurs ils le disent bien, ils disent bien que chacun donne son point de vue sur un mot, et Colbert s'en est bien rendu compte lorsqu'il est venu assister à une des séances à propos du mot ami.
Tout à fait, et il s'est aperçu que bon, on pouvait
guère aller plus vite,
voilà, faire plus vite, et que les avis des uns et des autres aboutissaient à des synthèses, et c'est ce qui fait que tout au long du 19e siècle, on a recopié le dictionnaire d'Académie. Il est toujours cité. On le brocarde parce qu'il manque tel ou tel mot, mais il n'en reste pas moins que 80% des définitions.
D'où sa descendance.
Voilà, tout à fait. Alors, l'autre aspect des choses, c'est qu'aussi, curieusement, on l'oublie, mais l'Académie donnait 18 000 mots, mais elle n'a pas hésité aussi à donner les tournures familières. Tournures,
oui, on le lui a reproché d'ailleurs.
On lui a reproché.
Y compris ces proverbes dont on disait qu'ils étaient triviaux.
Voilà. Alors, par exemple, dans les factums de Furetière, bon, il en est question. Et voilà ce que, dans le dictionnaire Déal, on trouve. Ils expliquent admirablement les façons de parler proverbiales et la canaille leur est fort obligée de lui avoir fait entendre son langage qu'elle n'entendait presque pas auparavant. Et alors, un autre reprend, chemise blanche, chemise de nuit, chemise de jour, grosse chemise d'homme, chemise de femme, mettre sa chemise, prendre une chemise blanche, changer de chemise, ôter sa chemise, chausser une chemise, chemise sale, manche de chemise. Voilà, type pas de belles phrases, mais on a oublié par malheur de mettre celle-ci, chier dans sa chemise.
Oui. Bon,
c'était vulgaire.
Ils se sont fait brocarder.
Voilà, mais remarquez tout de suite, tout à l'heure on a parlé des épithètes. C'était précieux. C'était très utile. Alors, on en arrive au troisième point. Mm. Qui nul n'est prophète en son pays, mais on est prophète dans les pays étrangers.
Voilà.
L'Académie française a immédiatement rendu un immense service à la langue française en devenant le dictionnaire extrêmement apprécié des étrangers, des Allemands et
des Anglais,
en particulier. Notamment. Et aussi bien les Anglais que les Allemands ont repéré, dès la première édition, et au XVIIIe siècle aussi, la quatrième édition notamment, ont repéré une véritable référence pour bien apprendre la langue française, pour bien la normaliser. D'une certaine manière, l'Académie a normalisé la langue française en Europe, ce qu'on oublie. Oui. Évidemment, elle ne va pas la normaliser auprès de l'élite, elle l'était déjà normalisée. Et là, elle a rendu un service immense.
Et même des Français qui ne parlaient mal le français ou le maîtrisaient peu en France.
Alors, ce qu'on oublie de dire, et là, j'évoquais mes souvenirs tout à l'heure, mais... Il y a à peu près une quinzaine d'années, j'étais venu rencontrer ici Daniel Auster, qui dirigeait le service de l'Académie. On avait fait un très bel article sur lui, puisqu'hélas, il nous a quittés, et sur cet entretien que j'avais eu avec lui. Et il m'avait expliqué ce que je ressentais confusément, et que je ressens encore davantage aujourd'hui, combien le dictionnaire de l'Académie est aussi un dictionnaire d'apprentissage. Mm-mm. Et que, à partir de 13-14 ans, c'est un dictionnaire qui est très clair. Et c'est ce qu'il a encore aujourd'hui. Les définitions sont claires, et pour une bonne raison. C'est que dès 1694, on avait fait un travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux jansénistes, enfin par rapport à la grammaire de Port-Royal, qui était moderne avant la lettre, et qui partait de définitions logiques. Et ces définitions logiques, bien entendu, c'est ce qu'attendent aussi les enfants, une bonne logique, quelque chose de clair et de bons exemples. Et alors évidemment, pour les étrangers, c'était un merveilleux dictionnaire.
Une mine. Nous nous interrompons et nous retrouvons dans quelques instants pour la suite de cette émission.
Canal Académie reçoit aujourd'hui Jean Pruvot, professeur à l'université de Cergy-Pontoise, pour la première émission de la série « Le dictionnaire, hier et toujours ». Nous avons bien compris en quoi ce dictionnaire de l'Académie était grand. Mais en aval, Jean Pruvot, nous ne pouvons pas passer sous silence les compléments très heureux que furent le dictionnaire de Thomas Corneille, et là on va en rendre mérite à l'Académie, parce qu'après tout c'est un académicien qui a écrit ce dictionnaire, à part ce dictionnaire dont nous avons déjà parlé l'année dernière, auquel nous avions consacré une émission l'an dernier, 1694 aussi.
Bien sûr.
Et alors c'est bien sous la houlette de l'Académie qu'il est né. Celui de Gilles Ménage, 1694 aussi, dictionnaire étymologique. Mmh. Et puis cette descendance prolifique de la première édition du dictionnaire de l'Académie, 8 éditions, qui n'auraient sans doute pas vu le jour si la formule n'avait été excellente dès la première édition.
Bien sûr. Juste alors une remarque sur ce dernier point. Puisque le vocabulaire était donné, les mots étaient donnés dans un ordre méthodique, si on peut dire, morphologique, c'est-à-dire mm-hmm. en donnant la racine du mot barque famille. Et puis désembarqué par famille. C'était très moderne. Moi, je considère aujourd'hui que c'était très pratique. Mm-hmm. Mais hélas, Richelet et Furtier étaient passés avant en instaurant l'ordre alphabétique strict.
Les lecteurs étaient déjà habitués.
Du même coup, dès la deuxième édition, les académiciens ont été obligés de suivre la mode installée. Et il est possible que si l'Académie avait fait son dictionnaire 10 ans avant, on ait été rompu à ce type d'ordre. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure que quand en 1982, chez Robert, Josette Redebove, qui en était donc un des éléments forts de la maison Robert, a proposé le Robert méthodique, elle avait beaucoup d'honnêteté remarqué que l'Académie l'avait fait avant elle et qu'elle avait découvert, dans le fond, que cette idée existait déjà
chez l'Académie.
Voilà, elle avait fait très honnêtement. Mm-hmm. Et tous les linguistes, de nouveau, avaient dit « mais c'est une très bonne idée ». Ça n'a pas davantage marché. Mm-hmm. L'ordre alphabétique, je crois, était incontournable. Alors, effectivement, il y a d'autres personnes, d'autres dictionnaires à citer. On a évoqué Thomas Corneille. Thomas Corneille, nous avons compris que Corneille, Pierre, grâce aux émissions, à l'émission que vous aviez aussi,
que nous avons faite l'an dernier,
sur le sujet, que Pierre Corneille, mon premier académicien, si on peut dire, avait participé au dictionnaire, et notamment aux articles concernant la littérature. Donc, quand on lit des articles qui ont trait à la littérature dans le dictionnaire de l'Académie, on peut supposer Pierre Corneille,
Corneille est né
à un certain moment. Nous avions vu lors de cette émission que Thomas Corneille, son frère, avait aussi eu un succès extraordinaire,
dramatique
presque plus grand que celui
de
son frère, et qu'à la fin, dans le fond du XVIIe siècle, on a oublié un peu Pierre Corneille, pas nous, au XXe et au XXIe, mais à la fin du XVIIe, on a un peu oublié Pierre Corneille, mais tout le monde connaît Thomas Corneille. Mm-hmm. Et alors, cette chose extraordinaire qui fait que le frère succède
au frère, fauteuil 19,
qui est très rare et très beau. Et Thomas Corneille s'intéresse au dictionnaire. Et là aussi, c'est quelque
Racine
chose de...
Racine ayant prononcé, vous vous souvenez.
Voilà.
Son discours d'introduction.
Et du même coup, ce qui est merveilleux, c'est que l'Académie lui confie le complément du dictionnaire de l'Académie. Elle ne l'appelle pas comme ça, mais dans la toute fin de la préface de l'Académie, il est dit, et je vous retrouve là le texte précis, « L'Académie n'ayant pas jugé à propos de donner place dans son dictionnaire aux termes particulièrement attachés aux sciences et aux arts pour les raisons qui ont été dites, quelques académiciens ont cru qu'il serait utile et agréable d'en composer un dictionnaire à part. Et comme ils l'ont fait avec beaucoup de soin, il y a lieu de croire que le public sera content de leur travail. » C'est le travail de Thomas Corneille. Et Thomas Corneille propose donc un dictionnaire qui est dictionnaire des arts et métiers, des arts et sciences.
Des termes des arts et des sciences.
Voilà. Il avait été élu donc en 1685 et il va offrir toutes sortes de vocabulaire, de mots précis le vocabulaire technique, le monde technique. On sera au-delà de 40 000 mots et il doit être considéré comme le complément du dictionnaire de l'Académie. Ce qui fait que la critique qu'on fait à l'Académie souvent de dire oui, mais elle
pas
ne s'est occupée.
Technique.
Voilà. Mais non, finalement, elle a sagement,
tout à fait,
en quelque sorte,
délégué.
Et la chose s'est reproduite d'ailleurs en 1842 avec Barré, B-A-2-R, accent aigu, qui a fait le complément du dictionnaire de l'Académie. Et j'ai presque envie de souligner aujourd'hui qu'avec la 9e édition, on en reparlera plus tard, on est dans la synthèse très heureuse puisque la 9e édition ajoute beaucoup de mots.
Et elles sont mélangées
et,
mots techniques
et voilà, il n'y en a pas trop non plus.
Oui.
Mais on s'approche d'une langue qui donne les mots de la langue, bien traités, de la langue courante, de l'usage courant, et s'y ajoute, bien sûr, les mots techniques incontournables.
Mais peut-être était-ce plus sage de les séparer.
Au début, je crois que c'était beaucoup plus sage. Donc voilà pour Thomas Corneille.
Alors, et Ménage ?
Alors, Ménage...
Gilles Ménage.
Voilà, Gilles Ménage va introduire la dimension étymologique. Alors, il n'est pas de l'Académie française, mais son dictionnaire étymologique, paraîtra à la même date.
Alors, lui, c'est un historien.
C'est un historien. Alors, ce qu'on peut dire peut-être de Gilles Ménage, c'est qu'il a fait des études classiques brillantes, hein, qu'il avait doté d'une maîtrise vraiment exceptionnelle du latin et du grec et de l'ancien français, qui l'intéressait, qui est évidemment très rare et précieux pour un... Alors, il connaissait l'hébreu, l'espagnol, l'italien. Il avait été d'abord avocat au Parlement, embrassant ensuite la vie ecclésiastique, ce qui lui avait permis de cultiver évidemment son goût pour les études. Alors, il était reçu à l'hôtel de Rambouillet, son esprit évidemment le faisait apprécier, et il tenait ensuite régulièrement salon chez lui le mercredi.
Les mercuriales.
Voilà, c'était les mercuriales. Et dès 1600, alors il venait par exemple Madame de Sévigné, il venait Madame de Lafayette. Et dès 1650, il publie Les origines de la langue française. Alors c'est pas encore un dictionnaire étymologique, mais c'est des propos sur donc la langue française et ses origines. En 1672 paraissent les observations sur la langue française, qui étaient dans le fond un complément assez heureux des remarques de Vaugelas, que Ménage d'ailleurs appréciait, les deux hommes s'appréciaient, parce que tous les deux étaient, on pourrait presque dire, les meilleurs spécialistes de l'histoire de la langue et de son usage du XVIIe siècle. Alors il se trouve que Ménage avait fait quelques critiques sur les académiciens, sur leur lenteur, sur leurs travaux, sur les projets, et on avait dit, mais j'ai perdu les références, mais je vous les donne un petit peu comme ça dans le désordre, qu'il faudrait quand même les lire à l'académie, comme il faut marier en gros un mauvais garçon qui a déshonoré une fille, et que ce serait bon de le marier à l'académie.
Ah bon ?
Bon, il n'a pas été élu.
Il n'a pas été entendu.
Non, il n'a pas été entendu. Et puis ça n'entrait pas dans le projet de l'académie, qui avait choisi d'être synchronique, on l'a dit tout à l'heure, et de ne pas être historique, et elle avait très bien fait. Mais il avait une méthode qui en fait le premier grand étymologiste, et qui fait qu'aujourd'hui, 70% de ses étymologies restent
justes.
Il faisait œuvre comparatiste. C'est-à-dire que il prenait le mot et il essayait de penser au sens du mot et de voir quel était le mot y correspondant en latin ou en grec ou dans des langues anciennes. Et ensuite, il essayait, en se disant, sans doute, le mot a changé en cours de route et on va retrouver l'étymologie du mot. Alors, c'était pas sans faille. Alors, voilà ce que dit Larousse. Un mot était donné à Ménage, il le passait à son laminoir en disant « Et vous ne devez en sortir ». Donc on voyait bien que on avait là une méthode. Il y avait le chevalier de Cailly qui disait « Alfana vient d'Écousse, sans doute, mais il faut avouer qu'en venant de là jusqu'ici, il a bien changé sur la route ». Alors, dans 70% des cas, il retrouvait la bonne étymologie. Bon, et à 30% qui sont un peu fantaisistes.
Oui, mais...
pas lui reprocher, il a fait avancer considérablement.
Ça fait un précurseur.
Vraiment un précurseur et qui, évidemment, va être pillé aussi dès le 18e. Alors, là aussi, je voudrais juste dire un mot. L'Académie n'a jamais été jalouse des travaux des autres. Ça, c'est quelque chose qu'il faut relever dès le début de l'Académie française. Certes, elle s'est sentie spoliée en partie par Furtière, elle se trompait.
Oui.
Furtière faisait un autre dictionnaire. Mais elle n'a jamais été jalouse.
Elle a d'ailleurs exclu de l'académie.
Voilà. Mais quand on y réfléchit, Littré a été élu à l'académie. Le TLF reste considéré comme un grand dictionnaire. Et l'académie française a son projet. Elle s'y tient. Et les 9 éditions, et c'est ce qui fait vraiment le poids de cette première édition, les 9 éditions sont conformes à l'esprit de la première.
Oui, c'est très bon signe.
Oui.
Cette non-jalousie.
Et ce qui est curieux, c'est qu'elle se retrouve rattrapée un moment, pas rattrapée, mais d'une certaine façon, elle est synchronique, donc structuraliste avant la lettre au 17e. Elle donne des exemples, ce que font les dictionnaires d'apprentissage aujourd'hui, ce que faisait Jean Dubois dans le dictionnaire du français contemporain en 1967. C'est très, très critiqué pour tout cela. Et en tenant bon le cap, à un moment donné, elle devient presque moderne. Et depuis quelque temps, là aussi, je dérape un peu, mais je suis convaincu, par exemple, que l'histoire de la langue revient et que cette fin du 20e et ce début du 20e siècle est marquée par le retour de l'histoire de la langue derrière le structuralisme qui avait un peu étouffé cette aventure. Et que constate-t-on ? C'est que l'Académie, dès le départ de ce projet de la 9e édition, a eu l'idée de réintroduire l'histoire de la langue très légèrement, pour mieux expliquer le mot, avec, entre parenthèses, l'étymologie rapidement. Eh bien, là aussi, elle n'était pas
en
retard.
Ça correspond d'ailleurs peut-être au goût du public.
Et aux besoins du public, effectivement. Et donc là aussi, on reparlera du dictionnaire historique de la langue française de l'Académie au 19e.
Toutes sortes de bonnes journées à venir. Les jours qui suivirent la présentation au roi du dictionnaire de l'Académie, le sieur Coignard, libraire de l'Académie, s'occupa à faire relier un grand nombre d'exemplaires de cet excellent dictionnaire. Que poursuit le journaliste du Mercure, tout le monde s'empresse de venir lui demander et qu'il commencera à éditer dans les premiers jours du mois prochain, dit-il encore. Ce renseignement est vague et ne nous dit rien ni sur le nombre ni sur l'identité des acheteurs. Mais une chose est certaine, la grande aventure de la lexicographie institutionnelle française venait de prendre son essor, écrit Bernard Quémada dans son livre « Les préfaces du dictionnaire de l'Académie française 1694-1992 », auquel vous avez d'ailleurs collaboré, cher Jean.
Oui, c'est ça.
Nous nous retrouverons très prochainement pour la deuxième émission de cette série, « Le dictionnaire hier et toujours ». Nous parlerons cette fois et conjointement de la deuxième édition du dictionnaire de l'Académie, celle de 1718, et de la troisième, celle de 1740. À bientôt et merci.